Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle et première émission de l'année. Je suis venue vous lire. Tout d'abord, nous vous souhaitons à tous une très belle et très bonne année 2020. De la joie, beaucoup de bonheur et de belles rencontres. Et à propos de rencontres, j'ai eu envie de vous lire des histoires de rencontres. Et comme il faut être au moins deux pour se rencontrer, j'ai fait appel à un invité, Pierre Ostoya. Pierre est comédien. Merci Pierre d'être avec nous et bonjour.
Merci, bonjour.
Et surtout, merci de partager ce moment de rencontre avec nos auditeurs. Alors, des rencontres, il y en a de toutes sortes. Rencontres amoureuses, rencontres insolites, rencontres imaginaires ou rencontres improbables. Quelquefois aussi, mauvaises rencontres. Et puis, des rencontres fugaces. Mais quelle que soit la rencontre, elle laisse toujours une trace, une empreinte.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, clandestines, différentes entraînant, et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presto s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la campagne de voyage, dont les yeux charmants paysages font perdre tout le chemin. Connaissons peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous ont inutile folie, laissez voir la mélancolie de d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour te souhait, vous serez dans l'oubli demain. Pour que le bonheur se vienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entre vous. Au baiser qu'on ne sait pas prendre, au cœur qui doit en vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais rêvé. Alors ce soir de lassitude, tout un peu plein sa solitude, des fantômes du souvenir. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
était prévu pour que ça marche entre nous. Il suffisait que nous nous rencontrions. Nous nous sommes rencontrés. C'était le plus difficile à faire, se rencontrer. Mais, depuis, nous ne sommes plus jamais rencontrés par hasard. C'est comme ça, la vie. Si vous rencontrez un être humain, dans la foule, suivez-le. Les gens qu'on aime, on ne les rencontre pas, on les reconnaît. C'est tout.
Je te reconnaîtrai aux algues de la mer. Je te reconnaîtrai aux lignes de ta main, aux stèles de tes cheveux, au profond des paupières. Je fermerai les yeux à mieux demain. Je te reconnaîtrai, complice du soleil. Je te reconnaîtrai, tu viendras de très loin. J'arriverai enfin à trouver le sommeil en suivant dans le noir la brise de ton parfum. Je te reconnaîtrai à coup sûr, ma féline, lorsque tu poseras sur mes premiers accords, dans le soleil rasant sur la toile sanguine, assise à contre-jour, la forme de ton corps. Quand voudras-tu souffler et faire? Quand voudras-tu conjurer mon sort? Sur la plus haute tour, je te reconnaîtrai au mouvement du vent. Quand la lumière viendra, je saurai que le jour est là, marqué des pas de celle que j'attends. Je te reconnaîtrai à coup sûr, ma féline, au mouvement que fait ta marche de velours, dans le soleil rasant sur la toile sans lune. Je te reconnaîtrai à coup sûr, mon amour. Quand voudras-tu souffler et faire? Quand voudras-tu conjurer mon sort?
François se sont rencontrés dans la rue. C'est toujours délicat un homme qui aborde une femme. Elle se demande forcément, mais est-ce qu'il ne passe pas son temps à faire ça? Les hommes disent souvent que c'est la première fois. À les écouter, ils sont soudain frappés par une grâce inédite leur permettant de braver une timidité de toujours. Les femmes répondent d'une manière automatique, elles n'ont pas le temps. Nathalie ne dérogea pas à cette règle. C'était idiot, elle n'avait pas grand-chose à faire, et aimait l'idée d'être ainsi accostée. Personne n'osait jamais. Elle s'était plusieurs fois posée la question, ai-je l'air trop boudeuse ou trop paresseuse? Une de ses amies lui avait dit, mais personne ne t'arrête jamais, car tu as l'allure d'une femme poursuivie par le temps qui passe.
Quand un homme vient voir une inconnue, c'est pour lui dire de jolies choses. Existe-t-il ce kamikaze masculin qui arrêterait une femme pour asséner, comment faites-vous pour porter ces chaussures? Vos orteils sont comme dans un goulag. C'est une honte, vous êtes la Staline de vos pieds. Qui pourrait dire ça? Certainement pas François, sagement rangé du côté des compliments. Il tenta de définir la chose la moins définissable qui soit. Le trouble. Pourquoi l'avait-il arrêté, elle? Il s'agissait surtout de sa démarche. Il avait senti quelque chose de nouveau, de presque enfantin, comme une rhapsodie des rotules. Il émanait d'elle une sorte de naturel émouvant, une grâce dans le mouvement, et il pensa « Elle est exactement le genre de femme avec qui je voudrais partir en week-end à Genève. » Alors, il prit son courage à deux mains, et il aurait même aimé en avoir quatre à cet instant. Surtout que pour lui, c'était vraiment la première fois. Ici et maintenant, sur ce trottoir, ils se rencontraient. Une entrée en matière absolument classique, qui détermine souvent le début des choses qui le sont moins par la suite. Il avait balbutié les premiers mots, et subitement tout était venu d'une manière limpide. Ses paroles avaient été propulsées par cette énergie un peu pathétique, mais si touchante, du désespoir. La situation était tellement inconfortable qu'il s'en sortait avec élégance. Au bout de 30 secondes, il parvint même à la faire sourire. Elle accepta de prendre un café et il comprit qu'elle n'était pas du tout pressée. Il lui demanda ce qu'elle voulait boire. Son choix serait déterminant. Il pensa « Si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. » On n'avait pas le droit de boire un déca à ce genre de rendez-vous. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. À peine rencontré et déjà s'installer une sorte de cocon un peu mou. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision, ou pire, chez les beaux-parents. Oui, le thé, c'est incontestablement une ambiance de belle famille. Alors quoi? De l'alcool? Non. Non, ce n'est pas bien à cette heure-ci. On pourrait avoir peur d'une femme qui se met à boire comme ça d'un coup. Même un verre de vin rouge ne passerait pas. François continuait d'attendre qu'elle choisisse ce qu'elle allait boire, et il poursuivait ainsi son analyse liquide de la première impression féminine. Que restait-il maintenant? Le Coca-Cola ou tout autre type de soda? Non, pas possible, cela ne faisait pas du tout femme. Autant demander une paille aussi tant qu'elle y était. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus? Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça fait peur. Non, le mieux, c'est de choisir entre deux comme... l'abricot. Voilà, c'est ça. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse, pensa François. À cet instant précis, Nathalie releva la tête de la carte, comme si elle revenait d'une longue réflexion, la même réflexion que venait de mener l'inconnu face à elle.
Je vais prendre un jus d'abricot, je crois.
Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité.
Hola, hola. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au Manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, d'une femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mieux plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant. Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus tous les deux, on s'est reconnus. On s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. On s'est retrouvés, on s'est séparés, puis on s'est réchauffés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. J'ai revu un soir, oulala, elle est retombée dans mes bras.
s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer?
Des bagages en queue d'oie, des bracelets en tas, et puis elle chantait d'une voix qui cite au Mangela. Elle avait des yeux d'opale dans son beau visage de femme, son beau visage pâle d'un pas qui me fut fatal.
Quand on s'est reconnu, on s'est reconnu, mais on s'est perdu de vue tous les deux, on s'est reperdu de vue, on s'est réchauffé quand on s'est retrouvé.
Et pourquoi pas ne pas se quitter?
Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer?
Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés.
Albert Camus disait « On voudrait que ceux qu'on commence d'aimer vous aient connus tels que vous étiez avant de les rencontrer, pour qu'ils puissent apercevoir ce qu'ils ont fait de vous. » Quand on rencontre quelqu'un, c'est signe qu'on devait croiser son chemin. C'est le signe que l'on va recevoir de lui quelque chose qui nous manquait. Il ne faut surtout pas ignorer ces rencontres, car dans chacune d'elles est contenue la promesse d'une découverte. C'est alors qu'apparut le renard.
Bonjour, dit le renard.
Bonjour, répondit le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.
Je suis là, sous le pommier.
Qui es-tu? Tu es bien joli.
Je suis un renard.
Viens jouer avec moi, je suis tellement triste.
Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé.
Ah, pardon. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoisé?
Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu?
Je cherche des hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser?
Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules?
Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser?
C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens?
Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.
Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé.
C'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses.
Oh, ce n'est pas sur la terre.
Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète?
Oui.
Il y a des chasseurs sur cette planète-là?
Non.
Ça, c'est intéressant. Et des poules?
Non.
Rien n'est parfait.
Mais le renard revint à son idée.
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde. Tu vois là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain, le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé.
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince.
S'il te plaît, apprivoise-moi.
Je veux bien. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi.
Ben, que faut-il faire?
Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près.
Le lendemain,
vint le petit prince.
Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites.
Qu'est-ce qu'un rite ?
C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances.
Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche...
Ah, je pleurerais.
C'est de ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise.
Bien sûr.
Mais tu vas pleurer.
Bien sûr.
Alors tu n'y gagnes rien.
J'y gagne, à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret.
Le petit prince s'en vut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard, semblable à 100 000 autres. Moi, j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi... Un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu. »
Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose.
Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis responsable de ma rose.
Surely I could tell when I sleep tonight, a dream will call and raise its head in majesty, dividing all my energy to the meeting of your love. Where from whence it came, like a singer searching for a song, I try to reach where you belong, as I will be. A song for you, I will be your servant child. No, oh no, I can't.
something that I feel, something that I feel inside. Surely I could tell, if you asked me, Lord, to board the train, my life, my love would be the same. Yes, I will be the one for you in the meeting of your love, in the meeting of your
La plus belle expérience que nous pouvons vivre est le mystérieux, disait Albert Einstein. Il représente l'émotion fondamentale qui se trouve à l'origine de l'art et de la science véritable. Quiconque ne l'a jamais rencontré et n'est plus capable de s'étonner ou de s'émerveiller est comme mort, et ses yeux sont clos à jamais. Voici une rencontre incroyable entre un plongeur et un poulpe, et comment celui-ci pu établir le contact avec ce drôle d'animal. Parmi tous les animaux que l'on peut avoir l'occasion d'observer de près pendant une immersion, il y a un groupe que j'affectionne particulièrement, celui des céphalopodes. En effet, ces animaux font partie des rares espèces avec qui une réelle interaction peut se mettre en place avec le ou la plongeuse qui a de la chance de pouvoir en contempler. L'intelligence de ces animaux est réellement bluffante. Ce sont des animaux sociaux qui sont empreints de curiosité et qui n'hésitent pas à venir au contact. Néanmoins, ils restent craintifs. Je vais tenter de partager avec vous quelques trucs que j'ai pu glaner au cours de mes immersions et qui m'ont parfois permis d'avoir des échanges très émouvants, voire impressionnants avec ces animaux. Une rencontre incroyable, inoubliable. Comment j'ai rencontré un poulpe ? Tout d'abord, concernant les poulpes, ce sont des animaux très intelligents. On se trouve face à un organisme à 9 cerveaux, 1 de coordination et 8 autres cerveaux répartis sur chaque tentacule. Les poulpes sont des animaux plutôt nocturnes. Il est donc plus facile de les rencontrer en fin d'après-midi lorsqu'ils sortent pour chasser. Ils se nourrissent de poissons et de crustacés et vivent dans des anfractuosités de rochers qu'ils se plaisent à décorer l'entrée avec quelques cailloux ou quelques coquillages. Il faut donc être très attentif à tout aménagement particulier qui peut être la halle d'entrée de la cachette du poulpe. Dès que vous aurez détecté son habitat, il convient de rester très calme, de ralentir sa ventilation et de se poser. Toutefois, il ne faut pas hésiter à se rendre visible de l'animal pour éveiller sa curiosité, sans trop montrer sa propre taille pour ne pas l'effrayer. Dans ces conditions, alors, la rencontre peut avoir lieu. Simplement, je me contente de poser la main devant le trou, non loin d'une de ses tentacules. Puis, j'attends. le poulpe intrigué viendra vous palper afin de découvrir quel est ce curieux animal qui vient le solliciter et qui ne ressemble à aucun de ses prédateurs. Ensuite, tout doucement, je frotte mes doigts l'un contre l'autre, ce qui a pour effet de profondément l'intriguer et qui, petit à petit, essaye d'attraper gentiment vos phalanges. En restant calme, on peut prolonger cette rencontre. Le poulpe peut se laisser alors approcher, voire caresser. Vous avez déjà rencontré une histoire sans suite? Toutes les fins d'histoire sont des fausses fins. Sitôt qu'on a le dos tourné, hop, l'histoire repart. Alors écoutez bien, voici la fin d'un début d'histoire.
C'est à la sortie d'un virage en épingle à cheveux qui m'avait contraint à sérieusement lever le pied, qu'à quelques cent mètres dans mes phares, j'aperçois soudain un type planté sur le bas-côté. Raide, tel un piquet de clôture, parfaitement immobile. Et l'idée qu'il allait probablement se jeter sous mes roues à mon passage me traversa en flèche l'esprit sans que je puisse dire d'où m'était venu ce sinistre pressentiment. À cette heure impossible et dans cette nuit aussi sombre qu'un roman russe, ce ne pouvait être qu'un foutu dehors, si vous voyez ce que je veux dire. Un ivrogne eût au moins quelque peu titubé, un voyou se serait placé au travers de la chaussée pour me forcer à m'arrêter, aurait au minimum fait un geste de la main, m'y invitant tout net. Au lieu de quoi l'individu semblait se contenter d'être là, les deux pieds fichés dans le remblai de l'accotement. Je ralentis, roule au pas. Arrivé à sa hauteur et comme je vais pour abaisser la vitre, côté passager afin de lui demander si tout va bien, alors d'autorité il ouvre la portière, tranquillement monte à bord et s'installe sans piper mot, comme si sa place de toute évidence avait été là, depuis toujours. N'allant moi-même nulle part, et tout empêtré dans mes tristes soliloques que j'étais, je me dis que nous pouvions faire un bout de chemin ensemble, qu'il se décide à ouvrir la bouche, à vider son sac, et cela pourrait avantageusement me changer les idées. Il n'en fut rien. Je repris mon Jinkama nocturne et une bonne demi-heure durant, en compagnie de mon silencieux passager, cependant que dans ma tête passait en boucle la bande-son de « Mort à Venise », je l'abandonnais pour finir un peu plus loin au bord de la route sur le quatrième mouvement de la symphonie numéro 3 en ré mineur de Mahler. Je le vis disparaître, tel un zombie dans mon rétroviseur, et me retrouvais une fois de plus aussi seul avec mes pensées qu'un bonobo sans sa tribu.
Je n'ai jamais demandé grand-chose dans ma vie, souffla-t-elle. Je voulais juste rencontrer quelqu'un, avoir une jolie histoire d'amour. Juste ça, une jolie histoire d'amour. Mais même ça, je ne l'aurais pas eue. Je levai la tête, nos yeux se rencontrèrent. Mon regard soutint un long moment son regard. Je sus que ce serait la dernière fois. J'avais enfin rencontré le bonheur, mais il n'a pas eu l'air heureux de me voir. Je t'ai rencontré, mais quelle rencontre amère. Tu as sans doute oublié le pacte qui nous a liés. Je t'ai rencontré, mais quelle rencontre amère. Pas un regard, ni un baiser, ni le feu d'un désir, ni une étreinte. Quel est cet amour que j'ai cultivé dans mon cœur? Que m'a-t-il apporté cet amour? Tu me fuis et je te poursuis en vain. De nouveau, mes lèvres assoiffées cherchent tes lèvres brûlantes. Mon cœur bat. Et à chaque fois, il raconte ton amour. Si le sort m'a séparé de toi, aucune crainte, je briserai le sort. Mais je crains que cet amour, enfin, ne me conduise à la mort. Tu as rempli de souvenirs ma maison vide. Ma poésie est la flamme de mes sentiments. C'est toi qui as fait de moi une poète. Le feu de l'amour a brillé un instant, dans tes yeux, et il est devenu un mirage. Lorsqu'il m'a vue exaltée et hésitante, il est devenu une image tombée à l'eau. J'avais l'espoir de baiser tes lèvres vivifiantes, mais ton baiser a rendu l'âme sur mes lèvres. Je t'ai rencontré, Mais quelle rencontre navrante! J'espérais poser ma tête sur ta poitrine. J'espérais verser des larmes dans tes bras. Ô toi qui ne penses pas à l'amour, je t'envie et j'envie ton cœur.
Jamais acquis à l'âme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir les bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il croit. La vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans âme qu'on avait trahis pour un autre destin, à croire le sérieux de se lever matin. Et qu'on retrouve au soir des amis incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour. Bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans noir, comme un oiseau blessé, et cela sans savoir. Nous regarde passer, répétant après moi les mots que j'ai tressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt me rouvrent. Il n'y a pas d'amour. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurer dans la nuit, nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer en frisson. Ce qu'il faut de merveille pour la moindre chanson. Ce qu'il
vagues de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour
et puis il y a des rencontres qui donnent la chair de poule. Des rencontres qui vous hantent longtemps, longtemps, comme celle avec le diable. Alors, un conseil. Si un jour vous rencontrez le diable, la seule façon de vous en débarrasser, c'est de lui rire au nez et ensuite de l'ignorer. Je ne suis ni croyant, ni particulièrement crédule. De ma vie, je n'ai rendu visite à un mage ou à une tireuse de cartes. Les horoscopes de la radio ou des journaux me font plutôt rire. Mais ce qui m'est arrivé cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Je rentrais chez moi, je n'étais ni saoul, ni excessivement fatigué. Arrivé dans la rue de l'église qui jouxte le cimetière, à quelques 500 mètres de chez moi, je cherchais une place pour me garer. D'un seul coup, un chat noir surgit de ma gauche et se précipite sur les roues de ma voiture. Je freine à mort, je sens la secousse provoquée par les pneus passant sur le corps de l'animal. Ma voiture dérape et j'ai toutes les peines du monde à ne pas partir dans le décor. Le cœur battant, je sors de la voiture et retourne sur mes pas. Mais au lieu du cadavre du chat que je m'attendais à trouver sur la chaussée, c'est une femme encore jeune, toute de noir vêtue, enveloppée dans une longue pèlerine à capuche noire, qui se relève. Et elle s'éloigne vers l'église, toute proche. « Hé, attendez !» lui criai-je, lorsque je la vis trottiner. « Mais vous n'êtes pas blessé ?» Mais l'inconnue ne répondit que par une sorte de ricanement et alla s'engouffrer dans l'église. Sur la route, à l'endroit exact où il me semblait avoir écrasé le chat, il y avait une tache de sang. Soufflé et un peu secoué quand même par cette aventure, je voulus en avoir le cœur net et garer ma voiture. Quel était cet étrange personnage et où était passé le chat? Malgré l'heure tardive, la porte de l'église était ouverte. Quelques cierges brûlaient et dans la pénombre, une petite vieille agenouillée priait. Je m'en approchais, la dévisageais, mais ce n'était pas mon inconnu de tout à l'heure. Je fis le tour de l'édifice, examinai tous les coins, en vain. La petite vieille se leva, esquissa une génuflexion dans l'allée et se dirigea vers la sortie. C'est alors que je perçus derrière moi un nouveau ricanement. Quelques hôtes étrangers jaillirent de l'or et me firent frissonner. La petite vieille avait dû entendre elle aussi. Elle se retourna et fit un signe de croix avant de s'enfuir. Je lui emboîtai le pas, le cœur battant, pas très fier de moi, m'efforçant de me raisonner, de ne pas me mettre à courir. J'atteignis enfin la porte par laquelle j'étais entré, lorsque, juste derrière moi, le ricanement se fit plus proche. Je m'élançai, bondis dehors, complètement paniqué. La petite vieille n'était déjà plus en vue. Seul, un chat noir traversait nonchalamment la rue, bondit sur le mur du cimetière et disparut entre les tombes. C'est sûr, je venais de rencontrer le diable.
You is the nature of my game. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys?
Insister, passer son chemin. Mais il arrive que, des fois, c'est un peu tard et ce qui doit arriver, arriva. Un homme monta dans un train bondé où les voyageurs étaient serrés comme des harengs et ouvrit la porte d'un compartiment. La porte fut violemment refermée de l'intérieur. L'homme la rouvrit et vit un gros homme assis en compagnie de deux femmes qui berçaient des enfants dans leurs bras. « Fermez la porte !» dit le gros homme d'un ton aigre. Compartiment pour invalides de guerre. Le voyageur resta debout un moment, serré comme un hareng dans le couloir, avec la perspective d'un voyage de 2 heures. Puis, d'un geste décidé, il rouvrit la porte et dit « Avez-vous des papiers ? Il y a ici des places libres, excusez-moi. Vous ne pouvez pas rentrer, dit le gros homme. » C'était un homme jeune qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. « Mais vous ne comprenez quand même pas que c'est du sang-gêne ? » Le gros homme voulut fermer la porte. mais le jeune la bloqua du pied. L'important pour lui n'était pas d'entrer pour être assis, mais ces gens-là n'étaient pas dans leurs droits et il ne fallait pas qu'ils s'en tirent comme ça. Ainsi le voulait le sentiment de la justice, estimait le jeune homme. « Je me mets ici, dit-il, ôtez ce carton à chapeau. » Le gros homme se leva de nouveau, la sueur lui perlait positivement sur le front. « Mais ayez pitié de ces femmes, dit le gros homme, il y a aussi des enfants qu'on est obligé de bercer. » « Mais faudra-t-il que je reste debout ? » demanda le jeune homme. « Je pourrais très bien rester debout, mais je ne veux pas. Ce n'est pas juste. » Le gros fit une dernière tentative. « Ce ne sera pas très agréable pour vous. Les enfants ne cessent pas de pleurer. » Le jeune homme prit place. L'atmosphère resta peu agréable. Le compartiment était plongé dans une demi-obscurité. Les femmes berçaient leurs mamots et ceux-ci criaient comme des écorchés. Mais le jeune homme était ravi intérieurement parce que le droit avait triomphé. Il resta assis, commodément assis, jusqu'au terminus. 3 jours après, il tomba malade et ne s'en remit jamais. Les gens du compartiment voyageaient avec des enfants atteints de la scarlatine.
Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien, tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien,
ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine,
ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, « Mais vous m'attrapez les seins !» Je lui ai répondu, « Madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. »
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le doigt pour mon alma.
On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soir au pont d'Alma.
Chez une vieille douairière de 60 ans bien sonnée, des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Le mari criait arrière, je préfère que l'on me tue. Mais brusquement la douairière lui dit à quoi ça mal tue.
Mais le voyons garçon.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Allons, allons, ma fille.
Oh, c'est à moi, vraiment.
Comme on parlait de supplice dans un salon tricoté, quelqu'un dit aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés. Chacun dit, c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria, écoute ma chouette, si vous voulez mon avis. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soir au pont de l'Alma.
Monsieur le chef d'orchestre, allez-y.
Un soir au concert colonne éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef dit d'une voix rageuse, et nous jouons Tannhäuser. Et vous vous jouez sans brémeuse. L'autre dit, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
Ça vaut mieux que d'avaler le pont de l'Alma. Ça vaut mieux que du vinaigre dans les sardines. Ça vaut mieux que de faire le zouave chez Ventura.
Notre émission Je suis venu vous lire se termine à présent. Nous vous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons encore et à nouveau une bonne et heureuse année 2020. Je voulais aussi remercier Pierre.
Merci.
D'avoir participé et d'avoir passé ce moment avec nous. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture, Pierre Ostoya et Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter l'émission « Je suis venu vous lire » en podcast sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur JetFM.